RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Depuis plus de 60 ans, vous le savez, nous vivons sous le régime constitutionnel de la Ve République. Mais beaucoup s'interrogent sur sa validité, sur sa pérennité. Beaucoup observent la montée inéluctable de l'abstention, la crise des partis, la défiance généralisée à l'encontre des élites, la poussée des extrêmes. En d'autres termes, alors que le premier parti de France est celui de l'abstention, alors que les héritiers de Lénine, de Trotsky, de Maurras, de Pétain se disputent la deuxième ligne électorale, notre Ve République va-t-elle tenir bon? Ce vieux vaisseau va-t-il aller jusqu'au bout du chemin? Étant entendu que dans ce domaine, comme dans d'autres, la crise sanitaire a joué et joue encore un rôle de révélateur, d'accélérateur. Avec nous pour explorer les racines historiques de notre présent politique, Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec vous. Alors, vous avez dirigé un ouvrage collectif qui sera très bientôt en librairie dans quelques jours, qui s'intitule « Demain, la Ve République ». C'est chez Perrin. Vous avez travaillé avec l'ancien ministre Hervé Guémard. Et puis, je rappelle que par ailleurs, vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, professeur associé à Normale Sup, et vous avez publié des biographies de Lyautey, de Richelieu, récemment sorties en poche, je crois, pour Richelieu. Et vous êtes spécialiste de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou. Face à vous, la jeune génération, Pierre Manenti, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, vous êtes normalien, vous avez été proche d'Alain Juppé et vous êtes aujourd'hui conseiller politique de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Et vous signez chez Perrin une histoire du gaullisme social avec une préface d'Hervé Guémard, une histoire tout à fait documentée et passionnante. Voilà le thème de notre conversation. La Ve République va-t-elle tenir bon ?
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
La Ve République va-t-elle tenir bon avec deux experts, Arnaud Tessier, président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, qui publie avec Hervé Guémard un livre collectif intitulé « Demain, la Ve République, point d'interrogation » chez Perrin. Et puis Pierre Manenti qui publie « Histoire du gaullisme social » toujours chez Perrin. Alors tout d'abord, peut-être on va se consacrer au diagnostic. Arnaud Tessier, vous qui suivez la vie politique depuis très très longtemps et qui êtes un expert auprès de nombreux acteurs de la vie politique, notre démocratie vous paraît-elle aujourd'hui fragile, Arnaud Tessier ?
Oui, mais elle est fragile. D'abord, la démocratie est fragile par essence.
Oui, en elle-même.
C'était la conviction de De Gaulle. Mmh. Et c'est pour ça qu'il avait façonné les institutions de 58. C'était pour armer, pour donner une armature.
Une armure même. Une armure ou une charpente ?
Les deux,
oui.
Mais il a employé l'armure, parce que c'était un homme qui, par son expérience historique, avait vu...
La déliquescence.
Avait vu une république s'effondrer en 1940. Je crois qu'il faut toujours avoir conscience de l'épaisseur du temps. Hein. Mm-hmm. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 58, 40, ça fait moins de 20 ans.
Oui, c'était donc, juste hier.
Voilà.
Il faut le rappeler, un traumatisme majeur.
Voilà, et sauf pour la jeune génération, comme Pierre Manenti, 20
qui va
ans,
parler, oui.
20 ans, c'est peu de choses dans la vie d'un peuple. Et pour De Gaulle, voilà. Donc la démocratie est par nature fragile. Puisque ça a été d'ailleurs très bien expliqué par Yves Meny, qui est un spécialiste de sciences politiques, il y a une frustration inhérente à la démocratie, qui est qu'elle est censée assurer le pouvoir du peuple et la souveraineté du peuple. Et en réalité, la démocratie, par essence, là encore, c'est l'organisation de la souveraineté du peuple, mais où le peuple n'est pas directement souverain.
C'est-à-dire que le peuple est éloigné des centres de décision.
Voilà, il est par nature frustré par la démocratie représentative. Alors, pendant des décennies, le système a fonctionné à peu près, mais aujourd'hui, avec les inquiétudes, les angoisses, la mondialisation, l'angoisse profonde des sociétés, eh bien, cette frustration devient très vive. Et je crois que le populisme, tout ça, c'est lié à ça. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire que notre démocratie est en crise. Elle est en crise dans le monde entier, il faut bien le dire.
Et puis elle a été. Ce qui n'est pas pour nous rassurer.
Voilà. Et plus particulièrement en France, et depuis plus longtemps à mon avis, parce que je crois, et c'est une des questions que nous posons dans cet ouvrage collectif, je crois que il y a certains fondamentaux de la Ve République qui ont été perdus ou oubliés et qui étaient destinés à assurer la solidité du système.
Par exemple ?
Je crois qu'il y a, dans l'article 3 de la Constitution de 58, et c'est pas De Gaulle tout seul, c'est tous ceux qui ont façonné la Constitution à l'origine, c'est avant la révision de 62 qui instaure l'élection du président de la République au suffrage universel. Dès 58, il y a dans la Constitution inscrit cette idée que la souveraineté du peuple s'exprime par deux voies qui sont égales. C'est l'élection de ses représentants et le référendum.
Et l'article 11, le référendum.
L'article 11 et l'article 89, le cas échéant. Et donc, pour De Gaulle, c'est devenu particulièrement vital à partir de 62, dès lors que le président de la République, en étant désormais élu au suffrage universel, a reçu une légitimité particulièrement importante. Or, on voit bien que le référendum est tombé en désuétude pour des raisons diverses.
On l'utilise avec des pincettes, on en parle avec des pincettes, on en reparlera tout à l'heure.
Mais c'est intéressant parce que justement, cette sorte de combinaison de la démocratie directe et de la démocratie représentative était un des fondements de la Ve République et était destiné à répondre à cette frustration dont De Gaulle était conscient. Puisque De Gaulle, en fait, en 58, c'est aussi un des aspects que nous développons dans le livre avec tous ceux qui y ont participé. De Gaulle, 58, c'est pas une constitution, comme on l'a dit et répété, faite par un homme pour un homme, taillée sur mesure. Oui. C'est une constitution qui tient compte de toutes les erreurs que la France a commises.
Et qui tient compte de l'histoire.
Depuis 150 ans.
Alors, on va revenir sur tout ça, mais je voudrais me tourner vers Pierre Maninty. Alors, vous êtes de la génération qui a succédé à Arnaud Tessier et vous êtes en ce moment au cœur du pouvoir puisque vous êtes conseiller politique de la ministre du Logement. Avant d'aborder le thème de votre livre, l'histoire du gaullisme social, est-ce que vous constatez dans votre exercice quotidien et jusqu'à quel point cette forme de désenchantement démocratique, de défiance, voire de désespérance politique aujourd'hui, Pierre Maninty?
Il y a évidemment, et encore plus au lendemain de la crise du Covid, de crise sanitaire devenue économique et sociale, et qui fait suite, il faut le redire, à la crise des Gilets jaunes, qui, il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, était une de ces crises.
Et des bonnets rouges avant, il faut
Et la crise des bonnets rouges sous le précédent.
Et on a eu une nuit debout aussi, il faut rappeler tous ces précédents.
Ça montre en tout cas une forme de périodicité et de régularité de ces mouvements citoyens en colère, qui ont le sentiment d'être dépossédés de leur parole publique, et puis dépossédés de leur vote, puisque ce qu'ils critiquent finalement, c'est un refus d'accepter les différentes élection et la légitimité du vote en revenant régulièrement dans l'espace public pour reporter une position, reporter une décision et finalement critiquer le pouvoir délégué à travers le vote. Et on le voit de plus en plus.
On veut exister, nous disent-ils.
On veut exister, on veut être entendu. Suffit pas. Et on n'accepte plus l'un des principes de la démocratie représentative, qui est de donner à un autre sa voix. On veut être sans cesse consulté. Pour rebondir sur ce qu'a dit Arnaud Tessier, une des racines de ce mal français et de ce mal des démocraties modernes, c'est aussi l'explosion du numérique et des réseaux sociaux.
Alors, vous analysez ça, Arnaud Tessier, vous avez une expression dans votre livre, vous parlez du grand dégoût collecteur. Alors, c'est le grand collecteur d'égouts, c'est le dégoût collecteur, que voulez-vous dire exactement?
Ah ben oui, je crois que l'expression, ça doit être d'Hervé Guémard, d'ailleurs, je crois.
Oui. Ah, c'est possible.
Je crois que il veut dire par là qu'effectivement, il y a une sorte de... Les réseaux sociaux, les nouveaux médias, ont un effet d'amplification et de diffusion des mécontentements et quelquefois un effet grossissant. Je crois que ça, c'est important parce qu'effectivement, c'est assez saisissant de voir d'ailleurs la violence que peuvent charrier les nouveaux relais sociaux. Bien sûr, même Twitter, enfin, on le sait. D'ailleurs, les politiques eux-mêmes, quelquefois, s'y enferrent parce qu'ils se sont entraînés dans ce jeu-là qui, je le rappelle, peu de temps avant l'élection de Donald Trump, c'est quand même pas vieux. Tout le monde ironisait sur le fait que Trump a usé et abusé du tweet en matière politique et tout le monde s'y est mis dans la foulée de Trump.
Absolument.
Alors, pas toujours avec avec le même style que Trump. Mais
et
voilà.
Trump a été élu.
Mais alors, cela dit, il y a cela, mais il y a quand même un problème de fond parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette abstention massive qui est une nouveauté. Parce que sous la Troisième République, la Troisième République vers 1900, n'était pas un régime très populaire dans l'opinion publique, parce qu'il était considéré comme faible. On a eu le boulangisme, les crises, des crises politiques
majeures. Déjà, il faut se rappeler que...
Mais les gens votaient. Les gens votaient. Oui. Ce pays qu'on verrait aujourd'hui un petit peu comme arriéré, parce qu'on le décrit comme un pays encore très rural, très soumis à l'Église, etc. Ce pays votait beaucoup. Et aujourd'hui, les gens ne votent plus ou
alors,
très
est-ce
peu.
Alors, est-ce que ce pays votait, dites-vous, votait-il de façon autonome ou votait-il selon les châtelains et selon les curés?
Oui, il votait de manière autonome, parce que, justement, les résultats des élections dans les années 1900, il y a eu le bloc des gauches, enfin, il y avait quand même des alternances politiques assez fortes, et les mouvements qui pouvaient être des mouvements de contestation assez violents, comme l'a été le boulangisme, par exemple, ou en tout cas qui ont pu menacer les institutions, ont quand même réussi à être combattus par les institutions de la Ve République, de la Troisième République, parce qu'il y avait aussi une administration très forte aussi, déjà à l'époque. Donc il y a tous ces aspects, si vous voulez, aujourd'hui quand même un symptôme qui, à mon avis, va au-delà des nouvelles formes d'expression, entre guillemets, démocratique, c'est quand même cette abstention. Et ça va être intéressant de voir, l'élection présidentielle jusqu'ici a échappé à cette mécanique, parce que l'élection présidentielle, c'est particulier, c'est vraiment, c'est vrai, la relation d'un homme et du peuple.
Voilà, en direct.
Voilà, d'un homme et d'une femme, d'ailleurs. Et donc, sans tomber dans l'écriture inclusive. Et donc, il y a cela, quand même, qui est très net. Donc, ça va être intéressant de voir, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Si, Covid aidant peut-être, ou aggravant, l'élection présidentielle est frappée, en tout cas au premier tour, parce qu'au second tour, c'est déjà arrivé, par un phénomène d'abstention important.
Alors, donc, cette abstention est une nouveauté, dites-vous, dans notre histoire politique. Pierre Manenti, dans votre exercice quotidien, je reviens à votre expérience personnelle, cette montée de l'abstention, en particulier des jeunes, il faut rappeler que 85% des jeunes n'ont pas voté au dernier régional, cette montée de l'abstention et cette montée des réseaux sociaux, peut-être du grand dégoût collecteur, comme dit Hervé Guémard, jusqu'à quel point est-ce que tout cela perturbe votre exercice politique, Pierre Manenti?
Deux choses. D'abord, d'où elle vient, je pense qu'il y a une crise de l'autorité, il y a une crise du savoir. Crise de l'autorité, on vient de le dire il y a quelques instants, les gens n'acceptent plus l'idée de donner leur voix, et finalement d'en être privé à toute forme d'autorité. L'idée de donner sa décision, de donner son pouvoir décisionnel, et d'en être privé pendant une période, ça n'est plus accepté. Et c'est un phénomène latent, en fait, et profond dans nos sociétés, ce refus de déléguer, et finalement cette volonté de liberté universelle et en tout temps. Et la crise du savoir, c'est aussi cette idée qu'aujourd'hui, dans un monde ultra-numérique, dans un monde où chacun peut s'exprimer en tout lieu, en tout temps et sur n'importe quel réseau social, c'est pas juste un effet amplificateur des polémiques, c'est aussi un espace de libre-échange, de libre discussion, de libre présentation de ses idées. Et on n'accepte plus, comme on pouvait sous la 3e, la 4e ou au début de la 5e République, de reconnaître des sachants qui ont une parole qu'on respecte.
Les sachants sont disqualifiés.
Les sachants sont disqualifiés, tout un chacun peut s'exprimer, et donc ça donne des débats pêle-mêle où se retrouvent de grands scientifiques face à monsieur tout le monde qui a son propre avis, et qui, si lui a plus de followers qu'une personne multidiplômée et doctorante, ne peut plus s'exprimer. Donc oui, y compris dans l'exercice quotidien, en 2022 du pouvoir, il y a cette forme de blocage, parce que on ne reconnaît plus forcément la qualification professionnelle ou technique d'une personne qui s'exprime. Et on met, le président de la République a eu il y a quelques semaines un propos qui a fait polémique en disant tout le monde a le droit de s'exprimer, mais toutes les paroles n'ont pas la même valeur. Mais c'est profondément vrai quand on y réfléchit. Sur un sujet très technique, la santé, un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, évidemment que la voix d'un médecin n'a pas la même poids et la même valeur que celle d'un autre. Moi, je n'ai pas du tout fait d'études médicales, je ne me permettrai pas d'évoquer cela. Et donc, pour moi, ce sont les deux fondements de cette crise moderne et de cet abstentionnisme dans les élections. Parce que les gens ne veulent plus participer à une élection qui ne cautionne pas, et par ailleurs estiment que leur voix vaut autant que celle d'un autre.
Donc on est devant un paysage assez problématique, vous l'avez dit, donc cette montée inédite de l'abstention, cette crise de l'autorité, cette crise du savoir. Alors Arnaud Tessier, jusqu'à quel point cette vieille cathédrale politico-administrative gaullienne, cette vieille charpente de la Constitution de 1958, qui a déjà subi, il faut le rappeler, 23 révisions, vous l'expliquez dans votre livre, jusqu'à quel point ce vieux vaisseau peut-il tenir face à ces tempêtes-là, Arnaud Tessier ?
Oui, parce que la grande question, de même qu'il y a cette idée un peu fausse, qu'elle a été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel, il y a l'idée qu'aujourd'hui, tous ces problèmes viennent des institutions. Alors je crois que ça, c'est un petit peu à cette idée que l'ouvrage collectif que nous avons mis en œuvre, c'est cette idée qu'on essaie de combattre, parce que ça nous paraît faux. Et il y a un certain nombre d'éléments qui le montrent. Je crois qu'il y a un mauvais usage des institutions qui a commencé certainement à partir du milieu des années 80. Et ça, c'est pour renvoyer dos à dos la droite et la gauche. Je dirais même que la droite a encore plus fauté sur ce plan-là. En tout cas, la droite qui était de tradition gaullienne ou qui se réclamait encore de la tradition gaullienne. Les cohabitations répétées ont été quand même une source de j'irais même
d'affaiblissement,
dire, de corruption des institutions.
Corruption,
parce que,
oui, au sens propre.
Voilà, parce oui. que autant une cohabitation en passant pouvait mmh. être tolérée, acceptée, vécue, comme ça a été en 86-88, autant les cohabitations répétées, et puis la pire de toutes les cohabitations, celle la plus longue de 97-2002, qui en plus était le fruit d'une erreur politique de Jacques Chirac.
De la dissolution de 97.
Qui avait dissous sans raison claire et qui ensuite est resté sans remettre en cause son mandat pendant 5 ans. Ça portait atteinte aux institutions. Je voudrais rappeler quand même ce débat de l'élection présidentielle de 88, où vous avez le président de la République en exercice, François Mitterrand, et le Premier ministre de l'époque en exercice, qui était Jacques Chirac, et qui tous les deux s'accusent mutuellement de mensonges les yeux dans les mm-hmm. yeux. Comment voulez-vous que
ça,
les institutions...
Ça, c'est pas la cinquième.
Mais non. Donc, il y a cela. Le quinquennat, évidemment, a encore plus fossilisé cette situation fâcheuse en entraînant de manière définitive le président de la République dans l'arène politique et dans la vie des partis, ce dont tous ils ont souffert, mmh. quelles que soient leurs intentions, leurs projets, leurs idées. Donc ça, tout ça, ce sont des éléments objectifs. Je pense que l'abandon du référendum qui fait peur aux dirigeants, et on comprend qu'il fasse peur. Parce que
oui,
de Gaulle
parce qu'on dit qu'on répond toujours à côté.
Oui et non, parce oui et que non. Moi j'ai toujours en mémoire, voir, oui. Vous savez, j'ai été collaborateur de Philippe Séguin.
Vous avez, oui.
Et Philippe Séguin, il a montré en 92, avec le référendum sur Maastricht, qu'à partir du moment où on pouvait organiser pendant plusieurs mois un vrai débat démocratique, mais pas des grands débats, etc., qui ne sont pas suivis mmh. d'une véritable confrontation politique, mais un vrai débat avec confrontation ensuite avant un vote, on a pu traiter d'un sujet qui était très profond et très technique. Je me souviens de Philippe Séguin allant dans ce que, à l'époque, on appelait un peu avec mépris les campagnes profondes, mmh. avec les gens avec leur béret basque et leur baguette, presque, qui voulaient voter non, etc., etc. Philippe Séguin allant expliquer les enjeux du traité de Maastricht, les gens ont compris, et bon, le oui l'a emporté, de peu d'ailleurs, mais à la suite, très certainement, en partie du débat Mitterrand-Séguin qui avait eu lieu début septembre 92. Mais il y a eu vraiment un jeu démocratique. Et je pense que, par exemple, sur un sujet comme les retraites, mmh. qui paraît très
on
technique...
On peut ne pas désespérer.
Mais bien sûr. Et ça relégitime l'autorité de l'exécutif et des présidents de la République. C'était le sens. Il l'a perdu en 69, mmh. certes. Mais en 69, De Gaulle a tenté, dans des conditions sans doute mal préparées, un référendum sur un sujet qui était peut-être pas très bien choisi.
C'était un an après 68.
Voilà. Mais c'est parce qu'il pensait qu'il avait encore des projets. Il pensait que pour les conduire avec une pleine autorité, une pleine légitimité,
il avait besoin.
Il fallait le renouveler la confiance démocratique.
Alors, on va revenir dans la dernière partie de l'émission sur toutes ces questions. La question du suffrage universel qui est peut-être fatiguée, la question du référendum, la question du quinquennat, la décentralisation, Maastricht, etc. Autant de domaines qui sont à bon droit évoqués dans votre livre. Mais nous allons aborder maintenant peut-être une partie plus précise mais très très forte dans l'histoire de la Ve République, c'est la question de l'aspect social du gaullisme, et nous allons l'aborder avec Pierre Mananti.
Les racines du présent, RCF.
Au micro, Frédéric Mounier. Notre thème cette semaine, la Ve République va-t-elle tenir bon? Avec nos deux invités, Arnaud Tessier, qui a coordonné le livre « Demain, la Ve République » pour l'interrogation paru chez Perrin, avec Hervé Guémard, et puis Pierre Mananti, historien et aussi membre du cabinet de la ministre du Logement, pour son livre « Histoire du gaullisme social », également chez Perrin. Alors, je me tourne vers Pierre Mananti. Vous soulignez que le Premier ministre Jean Castex s'est défini comme un gaulliste social. Est-ce que c'est une usurpation ou est-ce que tout le monde veut être gaulliste social aujourd'hui, vous qui avez étudié ce phénomène?
Alors, le Premier ministre l'a fait effectivement à son entrée en fonction en juillet 2020, et en réalité dans la vie politique contemporaine, il y a énormément de personnalités qui se revendiquent ce gaullisme
peut-être
social. On va y revenir d'ici un instant, oui. Mais en tout cas, elle traverse tout le paysage politique, des personnalités de droite qui ont rejoint la Macronie. On a parlé de Jean Castex, on pourrait parler de Gérald Darmanin, oui. Également, le ministre de l'Intérieur. Des personnalités de la droite chez les Républicains, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, il y a quelques jours, s'est présentée comme une gaulliste sociale. Des anciens historiques du RPR qui sont partis du parti, comme Nicolas Dupont-Aignan. Et puis même des personnalités de gauche. Arnaud Montebourg lance sa campagne présidentielle et annonce « Je veux remettre sur la table le thème gaulliste de la participation, je suis un gaulliste
Alors,
social ».
Alors, faut-il s'en féliciter? exister ou faut-il le déplorer ?
Alors, ça montre d'abord une chose, c'est que plus personne ne sait ce que veut dire gaullisme social.
Alors, vous allez nous l'expliquer.
Alors, oui. J'ai essayé, et c'était en tout cas l'esprit de ce livre, qui était de reposer une définition, parce qu'il y a effectivement des personnalités qui sont légitimes à se revendiquer. C'est un courant qui existe encore aujourd'hui et qui a une vraie vitalité. Et en même temps, il y en a d'autres qui usurpent un petit peu ce terme. Alors, gaullisme social, c'est quoi et ça vient d'où ?
Expliquez-nous.
À l'origine, d'abord, gaullisme tout court, c'est quoi ? C'est l'action et la pensée du général de Gaulle. Mmh. Et ce gaullisme social, c'est une précision qui est apparue dans les années 60-70 pour rappeler...
Pas avant. C'est aussi tardif que ça.
En réalité, le général de Gaulle est un homme de droite, conservateur, marqué par l'enseignement de son père. C'est un catholique qui est marqué par ce qu'on appelle le courant du catholicisme social.
Important ça, oui.
C'est quelque chose qui dit, quand on est chrétien, on l'est pas seulement dans sa foi et à l'église, on l'est aussi dans la vie de la cité.
Avec les autres et pour les autres.
Avec les autres et pour les autres. On doit être charitable, on doit être sensible à la misère. Et donc,
solidaire.
Il grandit dans ce milieu intellectuel, il est marqué par ses idées. Et puis, les épreuves de vie, et notamment celle de la France libre, ses rencontres avec des personnalités de gauche, des syndicalistes, d'anciens parlementaires, font que cette question sociale commence à le travailler, commence à l'interroger. Il a un discours qui est considéré comme l'un des discours fondateurs de l'âme sociale du gaullisme, qui est le discours d'Oxford, qui prononce en novembre 1941, où pour la première fois il s'exprime et il dit... La France qu'on a à reconstruire après la guerre, ça ne peut pas être simplement la France d'avant. Il faut en changer les institutions.
Donc ça, c'était dès 1941.
Mais il faut aussi s'intéresser à son modèle social. Et quand il arrive à la libération en 1944, qu'il dirige ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République, il met en place des réformes sociales. La nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, les ordonnances sur la sécurité sociale, les comités d'entreprise. Alors il n'est pas tout seul, c'est un gouvernement d'union nationale.
Et c'était le programme du Conseil national de la Résistance.
Ça a été pour partie le programme du Conseil national de la Résistance. Mais il y a eu de très nombreuses personnalités universitaires, politiques qui ont nourri le général de Gaulle sur cette période-là. Et puis très rapidement, le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1946, crée son parti, le Rassemblement du Peuple Français. Le RPF. On pourrait imaginer qu'il revient à ses vieux amours et à une posture politique pleinement ancrée à droite. Pas du tout. Le général de Gaulle est vraiment marqué par ça, parle du gaullisme social, parle du gaullisme ouvrier, veut s'adresser aux salariés, veut s'adresser à ceux qui travaillent et qui ont perdu leur travail par la guerre, qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont mutilés.
Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque, la France connaît encore les pénuries, les restrictions. On n'est pas encore tout à fait dans les Trente Glorieuses. Alors je voudrais vous faire écouter, Pierre Malanti, un extrait sonore, parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé d'extrait sonore du fameux discours d'Oxford. Bon, mais j'ai trouvé le 14 décembre 1948, donc justement le général a quitté le pouvoir depuis 2 ans et il a rassemblé au Vélodrome d'hiver à Paris les délégués des groupes d'entreprises du RPF, donc de son parti, et qui sont venus l'entendre, donc ils ont formé une salle vraiment comble, et de Gaulle explique qu'il stigmatise aussi bien le communisme international, il rappelle son objectif de réforme sociale et il exprime le souhait que le peuple soit rapidement consulté. On écoute Charles de Gaulle le 14 décembre 1948 au Vélodrome d'hiver à Paris.
Peuple français rassemblé, nous voulons que les travailleurs capables deviennent des sociétaires au lieu d'être des salariés. Oh, je ne vais pas à ce sujet déclamer des tirades démagogiques. Mais je dirais simplement que si nous voulons cela, ce n'est pas seulement par souci d'élever la condition ouvrière, mais c'est aussi par conscience de ce qui est nécessaire au renouveau de la France et à l'avenir de la civilisation. Oui, nous voulons...
Voilà, nous voulons que les travailleurs soient des sociétaires et non pas des salariés. Voilà, c'était révolutionnaire à l'époque. Pierre Malanti, vous qui êtes l'auteur d'une histoire du gaullisme social chez Perrin.
Ah, complètement. Et il faut rappeler que pourquoi le général de Gaulle diffuse ce discours, diffuse cette idée, c'est parce qu'on est encore dans un système politique, dans un système de pensée où on oppose d'un côté le capital, ce que le général de Gaulle appelle les gros sous, et de l'autre le travail,
voilà,
les travailleurs
c'est
avec la
lutte
force
des classes.
De
le Parti communiste est à 20-25% à l'époque.
Voilà. Et c'est l'idéologie prédominante dans le monde ouvrier. Et donc il veut s'adresser à ce monde ouvrier en disant... il y a une autre voie française, il y a un autre modèle qui peut exister. Il faut rappeler qu'on est aussi en pleine guerre froide entre les États-Unis et leur modèle capitaliste et l'Union soviétique et son modèle communiste. Et le général de Gaulle défend l'idée qu'il existe une troisième voie, c'est sa
troisième
formule,
voie, voilà.
Dans laquelle il n'y a pas d'un côté le capital, de l'autre le travail. Il y a une association réussie entre le capital et le travail. Il l'emprunte à un penseur catholique du XIXe siècle, Frédéric Le Play, qui est le premier à développer cette idée, qui dit le modèle économique ne peut réussir que si on arrive à allier ces deux forces. Et partout et tout le temps par la suite, il va mettre cette idée d'association capital-travail au cœur de son action. En 1950, un autre de ses discours sur le même sujet lui donne l'occasion de dire à quelqu'un qui l'interroge sur c'est quoi le sens du combat politique, il répond « la seule querelle qui vaille, la seule querelle politique, c'est celle de l'homme. La condition humaine est au cœur de son action. » Et quand il revient au pouvoir en 1958, une des premières réformes qu'il fait, 1959, ordonnance sur les retraites, travail sur la condition du travailleur indépendant, poursuite de la question du rôle du salarié dans l'entreprise avec les réformes sur l'intéressement, donc la participation à la réussite économique de l'entreprise, la participation à la décision, à la gouvernance dans l'entreprise. Et ça va vraiment le pousser. Et puis, progressivement, le général de Gaulle va s'implanter dans un paysage politique où il devient une personnalité de droite. Pourquoi ? Parce qu'à son retour en 1958, alors qu'il voudrait être l'homme unanime qui réunit la droite et la gauche va politiquement s'opposer à ses institutions, derrière François Mitterrand. Et c'est pour ça que naît dans les années 60 ce terme de gaullisme social, parce que la force des choses, la réelle politique, diraient certains, force le général de Gaulle à travailler avec des hommes de droite, parce que c'est le parti et les forces qu'il soutient.
C'est absolument fascinant cette histoire, parce que les réformes que vous décrivez, Pierre Manenti, sont des réformes de gauche. Et pourtant, vous l'expliquez très bien, Charles de Gaulle a été porté au pouvoir par la droite. Et ensuite, il est soutenu par la droite. Et il est maintenu au pouvoir en juin 68 par la droite également.
Oui, mais quand il revient au pouvoir en 1958, il revient sur un discours d'unité nationale. Quand il crée le Rassemblement du peuple français, il choisit à dessein d'appeler ça le Rassemblement, parce qu'il veut amener à lui des gens de gauche et de droite. Il y a des parcours extraordinaires. L'ancien patron des jeunes communistes après la Seconde Guerre mondiale, et vous avez rappelé tout à l'heure à quel point le Parti communiste était alors profondément ancré dans l'écosystème politique français. L'ancien patron des jeunes communistes, qui s'appelait Manuel Bridier, en 1948, convaincu par ce discours social du général de Gaulle, et donc convaincu qu'il n'est pas un homme de droite, mais vraiment un homme du dépassement politique, le rejoint et rejoint le RPF. En 1958, le général de Gaulle fait d'abord un gouvernement d'union nationale avec des hommes de gauche, des radicaux, des démocrates chrétiens, des hommes de droite. Et puis, après qu'il soit élu président de la République et que Michel Debré devienne son premier ministre en janvier 59, il forme de nouveau un gouvernement où se retrouvent essentiellement des gaullistes historiques, ceux qui l'ont suivi. Et dans ce gouvernement, il y a aussi des figures de gauche. Quelqu'un comme André Bouloche, qui était à l'époque membre de la SFIO et ministre de l'Éducation nationale. Donc, ça montre bien cette idée que le général avait profondément ancré dans son esprit qu'il n'était pas un homme de droite. Il était un homme du dépassement politique.
Du dépassement, c'était en même temps déjà ?
En tout cas, oui, cette idée du en même temps de gauche et de droite a des racines profondément gaullistes. Après, ça a été un des échecs du général de Gaulle. D'ailleurs, il le dit, moi c'est une phrase que j'ai choisi de mettre sur la couverture de mon histoire du gaullisme social, c'est « la gauche se réclamera de moi » quand je serai mort. Oui. Parce qu'il avait cette amertume profonde, alors qu'il mettait en œuvre un certain nombre de réformes de gauche, alors qu'il avait su relancer le pays à un moment de crise tragique en 1958, il était très amer de ce coup politique de la gauche, et notamment de François Mitterrand, qui avait refusé de le soutenir, qui avait refusé de voter les nouvelles institutions et qui ne lui faisait pas confiance.
Arnaud Tessier, vous qui avez observé cette histoire du gaullisme, quel regard vous portez sur ce que certains ont appelé le gaucho-gaullisme, le gaullisme de gauche, le gaullisme social?
Je crois, d'ailleurs Pierre Manenti vient de le dire de façon tout à fait magistrale, c'est pas un gaucho-gaullisme, c'est quintessentiel chez De Gaulle, et c'est l'idée de dépassement.
C'est la racine,
oui,
c'est l'une des racines.
Oui. De Gaulle n'a jamais nié qu'il y ait une droite et une gauche. Il savait qu'il y avait une droite, il savait qu'il y avait une gauche, et il pensait qu'il y aurait toujours une droite et une gauche. Mais il disait, le rôle du président de la République, c'est d'être au-dessus. Parce que c'est l'homme des grands mouvements, des grandes orientations, et c'est l'homme qui doit rassembler. Quel dommage que ce mot de rassemblement ait été galvaudé par la suite. Les gaullistes l'ont abandonné dans les années 90, malgré les efforts de Philippe Séguin pour le récupérer. C'est bien dommage, parce que ça, c'est profondément cela. Et De Gaulle allait assez loin, parce que il y a une note, je ne sais pas, on avait parlé avec Pierre Manenti, il y a une note du 5 juillet 68, au moment où De Gaulle, après mai 68, décide de ne pas reprendre Georges Pompidou, et de reprendre en main un peu directement avec Maurice Couve de Murville, la matière Matignon, les affaires intérieures, une note où il décrit sa conception de la participation, une note manuscrite, et ça va assez loin. Il est pour renforcer le rôle de l'inspection du travail, il veut véritablement que dans l'entreprise, les salariés soient associés de manière assez forte quand même aux orientations de l'entreprise. Et dans les mémoires d'espoir qu'il écrit avant de mourir, il parle de l'infirmité morale du capitalisme et on retrouve, c'est extraordinaire parce que chez De Gaulle, on dit toujours que De Gaulle est très pragmatique, etc. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a des idées fortes qui le conduisent toute sa vie.
Il y a une pensée constante.
Et il redit, il développe ce qu'il dit dans le discours d'Oxford, il le développe notamment dans ces extraordinaires messages de vœux de décembre 68, ou alors dans le texte un peu philosophique qu'il rédige lui-même et qui est l'exposé des motifs du projet de loi référendaire sur lequel il va perdre. Il décrit une crise de civilisation, il dit en substance, le communisme, toutes les idéologies un peu tronquées vont avoir une fin, et le capitalisme se retrouvera confronté à ses propres contradictions et à son infirmité morale.
Donc c'était prémonitoire.
Et oui, et Solzhenitsyn,
cette infirmité morale,
très frappé par le fait que Solzhenitsyn, 10 ans plus tard dans son discours de Harvard sur le déclin du courage, dit la même chose. Et c'est ce qui s'est révélé avec la globalisation. Et je crois que la crise de la démocratie aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est un peu le fait aussi que c'est vrai que les élites dirigeantes n'ont pas perçu...
cette infirmité morale
du capitalisme. Voilà, et tout le mouvement un peu illusoire qui a suivi la chute du communisme en 89, on a cru que finalement c'était un modèle de société.
On a cru que...
Donc tout cela, voilà, tout cela. Et moi j'ai toujours été frappé par le fait que De Gaulle l'avait perçu, ça. C'est quand même assez extraordinaire.
Alors Pierre Manati, un dernier mot autour de votre histoire du gaullisme social. On voit bien en écoutant Arnaud Tessier à quel point cette vision fait vraiment partie des racines du gaullisme, mais ne s'est-elle pas un peu amenuisée au fil de l'histoire du gaullisme et au fil des divers gouvernements du général de Gaulle, Pierre Manati?
Oui, Arnaud Tessier l'a rappelé, c'est quelque chose que le général de Gaulle portait lui-même et personnellement, et donc après sa disparition politique en 69 et personnelle en 70, ce lien profond...
Il n'y avait pas d'héritier?
Il y avait des héritiers, mais en tout cas ce lien profond entre le gaullisme et la question sociale s'étiole parce que ses héritiers, Georges Pompidou en 1969 et puis auprès de Georges Pompidou, Jacques Chirac en 1974 lorsqu'il rejoint Valéry Giscard d'Estaing au nom du camp gaulliste et abandonne Jacques Chaban-Delmas, ces héritiers-là portent moins la question sociale.
Oui, et la fameuse fracture sociale de Jacques Chirac, c'était juste une devanture?
Non, je crois pas. C'est quelque chose qui est porté justement par ces gaullistes sociaux dont je parle beaucoup dans mon livre, qui ont continué à vivre.
Oui, que vous décrivez très précisément.
Ils étaient moins présents que d'autres grandes personnalités politiques. Ils ont surtout animé des clubs, des petits mouvements, mais ils ont continué à faire vivre cette idée que la droite devait être sociale, qui était vraiment l'idée profonde du général de Gaulle. Et en 95, lorsque Jacques Chirac fait sa campagne présidentielle, il appelle auprès de lui Philippe Séguin, et Philippe Séguin le rejoint avec cette idée de la fracture sociale, avec cette idée que le président doit réconcilier les Français, recréer de la cohésion économique et sociale. Donc non, ça a continué à vivre après le général de Gaulle. Il y a eu des parcours, et ça c'est aussi amusant. Certains ont voulu faire vivre cette idée à droite.
Alors,
je pense
à
Christian Poncelet, Philippe Séguin, Philippe de Chartres. Mais il y a aussi des personnalités qui se sont dit finalement que la meilleure manière de faire vivre ce gaullisme social, c'était de travailler avec la gauche. Je pense à quelqu'un comme Jean Charbonnel, ministre du général de Gaulle puis de Georges Pompidou, qui participe au programme commun de la gauche dans les années 70. Donc ça montre bien, on parlait tout à l'heure de cette volonté du général de Gaulle de dépasser les clivages droite-gauche. Certains des gaullistes les plus assumés, qui pourtant ont fait partie de son gouvernement, estimaient que le vrai héritage se trouvait dans un travail avec la gauche.
Vous n'avez pas mentionné Pierre Manati, Jacques Chaban-Delmas. S'il avait pu mener à bien, mettre en œuvre sa nouvelle société, aurait-il été un héritier de ce gaullisme de gauche?
Alors, c'est un héritier du gaullisme social. On fait le distinguo entre gaullisme social et gaullisme de gauche pour marquer gaulliste social, ceux qui se retrouvent dans cette idée, et gaulliste de gauche, ceux qui vont justement travailler avec la gauche. Jacques Chaban-Delmas est un héritier de ce gaullisme social. Il a notamment eu un discours extraordinaire en 69, le discours de la nouvelle société, où il pose les grandes réformes sociétales qui seraient à mener. Malheureusement, on l'évoquait il y a quelques instants, sa défaite en 1974, la privée d'une place politique nationale qui aurait permis justement l'éclosion de cette idée et leur vie. Et ça a été le même drame pour Philippe Séguin, qui n'a jamais su avoir cette place et cette visibilité nationale pour faire vivre cette idée du gaullisme social.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
À notre menu aujourd'hui, la 5e République va-t-elle tenir bon avec deux experts de deux générations différentes? Arnaud Tessier, qui a organisé avec l'ancien ministre Hervé Guémard un livre collectif passionnant intitulé « Demain, la 5e République ?» Point d'interrogation, c'est chez Perrin. Et puis Pierre Malanti, qui fut l'un de ses élèves à l'école normale, on peut le dire sans trahir de secret, qui est aujourd'hui travaille au cabinet du logement et qui publie une histoire du gaullisme social chez Perrin. Alors Pierre Malanti, vous nous avez bien expliqué cette histoire du gaullisme social et vous citez une phrase que je trouve assez prémonitoire qui a été évoquée en 1999 par Jean-Louis Bourlange, dont on connaît bien la finesse d'analyse politique. Je cite ses propos et je vous demanderai de réagir à Arnaud Tessier. Le gaullisme est une sorte d'Éden politique niché dans un coin de notre cerveau, avec l'État souverain, la France libre et respectée, l'économie créatrice d'emplois et de protection, les majorités présidentielles et parlementaires qui coïncident, le principe de cohérence incarné par le chef de l'État et enfin une droite qui ne s'use pas quand on s'en sert. Il y a aussi le sentiment de l'irrévocable, mais l'Éden, conclut Jean-Louis Bourlange, est un paradis perdu. Le gaullisme est-il un paradis perdu, Arnaud Tessier ?
Oui, en tout cas, la nostalgie que nourrit le gaullisme chez beaucoup de gens est quelque chose qui est tout à fait... que sous-tend tout à fait ce propos de Jean-Louis Bourlange, qui définit très bien ce que représente l'idéal gaulliste, c'est certain. Simplement, un idéal ou en tout cas une vision ou un objectif ou une ambition, c'est pas quelque chose qu'il faut pour autant abandonner, même si ça paraît très abîmé, très difficile à réaliser. Je crois que c'est aussi une des leçons que De Gaulle nous a données, c'est qu'il faut toujours remettre... toujours sur le métier, la même
c'est
entreprise,
jamais gagné.
Mais voilà,
c'est
toujours un effort permanent. Pour donner à la démocratie son armure et pour lui permettre d'être une source de progrès, c'est un travail inlassable parce qu'on est toujours face à une sorte de fatalité qui revient. Je trouve que le témoignage le plus extraordinaire que De Gaulle en ait laissé, c'est le début des Mémoires d'espoir, où il dit, il est à la fin de sa vie, il va faire un peu le bilan, il va laisser un peu son testament politique, et il dit, par certains égards, c'est un peu décourageant parce que le monde tel qu'il vient, etc. Mais pour autant, il dit qu'il ne faut pas renoncer. Et je crois que si c'est évidemment absurde d'espérer qu'on va refaire ce qu'a fait le général de Gaulle, que le général de Gaulle va ressusciter, en revanche, il n'est pas interdit de s'inspirer de ces leçons et d'essayer de revenir aux sources de la Ve République, qui d'ailleurs, comme nous essayons de le montrer dans le livre, et comme je le crois profondément, n'est pas seulement une constitution gaullienne. C'est une constitution qui ramasse toutes les leçons du passé et qui essaie de faire la synthèse de, finalement, dans cette expérience politique française depuis la Révolution qui était très accidentée, il y a beaucoup de choses à retirer. Quelque chose en particulier qui était très important chez De Gaulle et qu'avait oublié Jacques Chaban-Delmas, et je pense que c'est pour ça que Chaban-Delmas a été un peu affaibli, notamment vis-à-vis de Pompidou de ce point de vue-là, c'est le rôle de l'État. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de manière un peu ambitieuse et positive du rôle de l'État, alors qu'on voit bien, la crise sanitaire l'a montré, que en particulier dans les circonstances de crise ou circonstances tragiques, le pays tient grâce à l'État.
Le pays, oui.
Voilà.
Alors, il y a quand même un point central à cette constitution de la Ve République, c'est l'exécutif fort, la force de l'exécutif. Alors, certains parlent de monarchie républicaine, d'autres parlent de république orléaniste, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, beaucoup s'inquiètent de voir que la force de l'exécutif a été, semble-t-il, synonyme d'affaiblissement du Parlement. Pierre Malanti, que peut-on en dire ?
D'abord, les projets constitutionnels du général de Gaulle, ceux qu'on connaît après la guerre, le discours de Bayeux qui a été évoqué par Arnaud Tessier tout à l'heure, avec l'idée du président au-dessus des partis, le discours d'Épinal aussi, on a beaucoup parlé de Philippe Séguin, qui serait sensible à cette mention de sa ville chef-lieu, et puis la constitution telle qu'elle est imaginée en 1958 par de Gaulle, mais aussi par Michel Debré, qui auprès de lui, dès les années 40, travaille sur ce sujet, et puis donc en 58, des gens comme Raymond Jeannot, Jérôme Solaï-Sélénie qui travaillent cette constitution, tous ces gens-là ont l'idée que le pouvoir de la 3e République et de la 4e République a été trop dépendant du Parlement et que cette dépendance du Parlement a créé une instabilité.
Mais est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'autre extrême, justement ?
Je ne crois pas, parce que le général de Gaulle, finalement, en ramenant le président de la République au centre du jeu, et puis surtout à partir de 62, en faisant cette élection du président de la République au suffrage universel, lui donne une légitimité. On revient maintenant avec le quinquennat à une élection quand même assez régulière du président, et il peut s'asseoir sur cette légitimité pour prendre des décisions sur le moyen terme. réformes, ce que la 4ème République ne pouvait pas faire par instabilité, parce que ces gouvernements tombaient continuellement en fonction des coalitions, des petits arrangements entre les différents partis au Parlement. Et puis par ailleurs, on a quand même un régime aujourd'hui qui n'est pas qu'un régime présidentiel, qui est un régime semi-présidentiel, qui s'appuie aussi sur le Parlement. On n'est pas non plus dans un État dictatorial ou monarchiste comme certains peuvent l'en accuser.
Il n'en reste pas moins que les députés expriment régulièrement leur frustration.
Parce qu'il y a aussi un rythme des textes parlementaires effréné aujourd'hui. Une difficulté qui est que beaucoup de choses ont quitté le champ du réglementaire pour entrer dans celui du législatif. Donc on a besoin beaucoup plus de légiférer et d'aller vers le Parlement. Et en même temps...
On légifère probablement trop.
On légifère probablement trop. Et en même temps, l'urgence quotidienne, la crise sanitaire, les besoins de transformer en permanence le fonctionnement de l'État, la régulation de l'économie font que on a constamment besoin d'aller devant le Parlement pour discuter de ces lois. Et donc c'est surtout, la question n'est pas tant celle du rapport entre l'exécutif et le législatif que celle de l'inflation législative et du nombre de normes.
Alors vous avez évoqué le quinquennat Arnaud Tessier. Ce quinquennat a-t-il été une bonne ou une mauvaise chose au regard de l'histoire constitutionnelle de la 5e ?
Alors, dans mon opinion personnelle, plutôt une mauvaise chose, parce que cet alignement des temporalités n'est pas une bonne chose.
Entre l'élection présidentielle et l'élection législative,
Il faut rappeler. Et il y a d'ailleurs une autre temporalité qui était importante pour De Gaulle. Il y a la temporalité du politique qui est rythmée par les élections, par le pouvoir de l'opinion publique, par la pression des sondages, et puis il y a le rythme de l'action publique qui s'exprime à travers l'administration, qui doit s'inscrire dans une temporalité différente. Tout ça, c'est une combinaison de temporalités. Je crois que ce qui est dommageable à la démocratie depuis un certain nombre d'années, et que le quinquennat et curieusement les effets induits des cohabitations produits, c'est quand même une présidentialisation du régime qui, sans doute, doit beaucoup... dont Nicolas Sarkozy est très largement responsable, et un effacement du Premier ministre qui est quand même quelque chose qui n'est pas dans l'esprit des institutions. Et je crois que c'est ça qu'il fausse un peu le rapport avec le Parlement, où le Premier ministre est quand même censé représenter l'exécutif auprès du Parlement. Et malgré des personnalités de grande qualité qui ont pu être Premier ministre jusqu'à présent, on voit bien que même que la fonction de Premier ministre est beaucoup plus effacée, alors que sous De Gaulle, contrairement à ce qu'on dit souvent, De Gaulle n'est pas une sorte de monarque omnipotent. Michel Debré, Georges Pompidou et même Maurice Couve de Murville, il les a pleinement respectés dans leurs prérogatives. Il était très
sourcilleux. Sur ce point précis de la force de l'exécutif, il y a eu dès le début de la 5e le positionnement de ce fameux domaine réservé en matière de défense, en matière de politique étrangère. On voit bien aujourd'hui, avec la présidentialisation que vous évoquez, Arnaud Tessier, on voit bien la multiplication de ces conseils sanitaires, de ces conseils de défense. C'est-à-dire que certains disent que non seulement le Parlement n'est pas respecté, mais même le Conseil des ministres est devenu une sorte de sous-instance parce que tout se décide dans un exécutif extrêmement resserré. Alors, est-ce que c'est justifié par la réalité des décisions à prendre en situation de crise, Pierre Manati ? Comment vous voyez ça ?
C'est pas tout à fait vrai. Les ministres concernés sont pleinement en exercice et avec la confiance du président de la République et du Premier ministre. Mais le fonctionnement de nos sociétés, la surmédiatisation de nos personnalités politiques fait aussi que le président de la République doit pouvoir connaître en tout temps cette situation, doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir rassurer les Français. C'est d'ailleurs ce qui est attendu de lui quand on regarde les enquêtes d'opinion, la suite de ces différentes expressions récentes sur la crise sanitaire. Il y a un vrai lien sentimental, passionnel des Français au président.
Et on voit les audiences qu'il fait chaque fois qu'il s'exprime.
Exactement.
À la télévision.
Et du coup, c'est pas tant un rééquilibrage du pouvoir qu'au contraire, une réaction de l'exécutif qui se réorganise pour être en capacité, face à cette surmédiatisation, à cette surcommunication, que ce soit dans les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, il faut que le personnel politique soit en capacité d'expliquer les mesures qu'il a prises. On estime que Arnaud Tessier a expliqué il y a quelques instants, et très justement, le rapport de De Gaulle à ses premiers ministres, à la fois fidèle et loyal, mais aussi dans les libertés qu'il leur laissait. Et on a connu des grandes contradictions entre Michel Debré et le général de Gaulle, sur l'Algérie, et puis Georges Pompidou sur la question de la participation. On a beaucoup parlé du gaullisme social, ça a été un
des sujets... Pompidou n'était pas trop favorable à la participation.
Il n'était pas tout à fait favorable, il pensait que c'était une lubie du général de Gaulle qui avait de temps en temps des éclairs de génie qui les imposaient, et Georges Pompidou n'y croyait pas du tout. Mais donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense que c'est plutôt une transformation, une contemporanisation de la vie public.
Mais on est toujours sous la 5e République.
Bien sûr.
C'est ça. Alors, il y a un autre point, Arnaud Tessier, que vous avez soulevé rapidement, mais c'est la question du référendum, ce fameux article 11. On entend un certain nombre de candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle qui se situent en dehors du jeu républicain, en tout cas en dehors de l'état de droit. Je pense à Éric Zemmour qui a bien expliqué que le Conseil constitutionnel n'était pas sa préoccupation, qui nous disent, un peu comme Marine Le Pen, qu'ils vont faire un appel au référendum régulier, suivi, etc. Alors comment comprendre ces revendications par rapport à la base de la Constitution, de la Ve République et de l'exercice du référendum tel que l'a voulu Charles de Gaulle?
Alors je ne crois pas que dans l'esprit de Charles de Gaulle, le référendum soit quelque chose auquel on recourt de manière systématique sur tous les sujets.
C'est pas la Suisse.
C'est pas du tout l'idée. Non. Et tous les avatars qui ont été proposés au moment des Gilets jaunes, ça n'a rien à voir avec l'esprit de la Ve République. Il s'agit de quelque chose d'assez solennel et sur des sujets capitaux. Alors, ce qui est paradoxal, c'est vrai, c'est qu'en 95, on a étendu le champ du référendum à des questions de société et qu'on n'en fait pas vraiment usage. Donc là encore, c'est cette frustration dont je parlais. Mais il ne s'agit pas de transformer la Ve République en démocratie directe. C'est un élément important de la Ve République que les dirigeants ont trop délaissé depuis 30 ans, ça c'est certain, mais ça ne doit pas devenir non plus un substitut à la démocratie représentative qui doit avoir toute son importance.
Voilà, vous dites qu'il ne faut pas céder à la tentation du référendum d'initiative citoyenne.
Non, parce que ce n'est pas l'esprit. C'est une façon pour l'exécutif de poser la question de confiance aux Français hors du calendrier électoral habituel, ce qui est d'ailleurs une grande force pour l'exécutif parce qu'il est maître du calendrier sur ce plan. Il peut choisir le moment où il pose les questions, mais il doit poser de bonnes questions. Et c'est vrai que ça suppose quand même un certain investissement, une prise de risque. Parce que si on veut faire des réformes majeures, il y a un risque politique à prendre, je crois que c'est ça. Il y a cela aussi. Et puis les critiques sur la... J'ai parlé de la présidentialisation qui est un peu le fruit, en quelque sorte, bizarroïde de quelque chose qui avait été d'abord dans un premier temps l'exaltation du Premier ministre qui était les cohabitations et du quinquennat. Mais la période de crise actuelle, c'est un peu différent. C'est normal que le président de la République soit en première ligne dans les périodes de crise. Ça aussi, c'est un élément clé de la Ve République. Pour De Gaulle et pour les institutions telles qu'il les a conçues avec tous ceux qui ont été évoqués par Pierre Manenti, le président de la République, c'est l'homme des crises. Et on se souvient que à la veille du premier confinement, lorsque le pays était submergé par ce drame qu'était la pandémie qui arrivait et qu'on n'avait aucun moyen de contrôler, il a été question, envisagé même, de recourir à l'article 16, qui est des clés.
J'allais le dire.
Donc moi, ce n'est pas choquant pour moi.
Et on n'en a pas parlé.
Pour moi qu'il y ait une forte présence du président de la République en période de crise. C'est tout à fait normal.
Alors, il y a d'autres réformes qui ont marqué notre vie politique depuis 1958. Je veux parler maintenant de la décentralisation. C'était une réforme qui était chère aux yeux de Charles de Gaulle. Aujourd'hui, beaucoup remettent en question cette réforme. Le millefeuille décentralisé serait arrivé à un point d'obésité. Que peut-on en dire, Pierre Manenti, aujourd'hui, à la fois avec votre regard d'historien et votre regard de praticien du pouvoir politique aujourd'hui?
D'abord, De Gaulle, c'est l'homme de la déconcentration plus que de la décentralisation.
Expliquez-nous.
Il organise dès les années 60 l'idée que l'État ne peut pas tout décider à Paris, qu'il faut que l'État décide dans les territoires, ce qui ne veut pas dire donner des compétences aux territoires, mais rapprocher l'État d'un échelon territorial de la décision. Donc, créer des préfectures de région, des services régionaux, départementaux de l'État, qui vont pouvoir, au contact des élus locaux, construire une décision.
Mais c'est toujours l'État.
Mais c'est toujours l'État, contrairement à la décentralisation, qui est l'idée qu'on donne cette compétence nouvelle aux collectivités territoriale et qui prend vraiment ses racines dans les années 80 avec les lois de fer, donc sous le mitterrandisme et la gauche au pouvoir. Donc De Gaulle est à la fois sensible à la question d'une pratique locale et territoriale du pouvoir, et c'est pour ça qu'il organise cette organisation, ce déploiement de la force de l'État et du service public dans les territoires. Et en même temps, à son époque, il n'y a pas encore, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, la question des grandes régions ou de la répartition entre les différents échelons territoriaux de compétences comme l'habitat, la réindustrialisation, l'économie, l'éducation.
Et les transports.
Et, effectivement, on pense souvent à De Gaulle et aux territoires, parce que lorsqu'il part en 1969, il part sur ce référendum,
voilà,
sur les territoires.
Il faut le rappeler.
Et on a donc souvent vu un petit peu en legs du général De Gaulle cette volonté, pour le coup, de donner des compétences, de décentraliser, parce que c'était le dernier grand œuvre de son...
Mais alors, qu'est-ce qui est dans l'esprit de la Cinquième? C'est la décentralisation ou c'est la déconcentration?
C'est plutôt la déconcentration, dans l'esprit gaulliste de la Cinquième
République.
L'État
reste central.
L'État reste central, c'est un État jacobin, mais avec un certain nombre de relais territoriaux.
Jacobin plus que girondin.
Beaucoup plus, ouais. Oui.
rappeler?
Eh bien, il faut rappeler aussi que, on parlait tout à l'heure de la pratique des référendums. Lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, le président de la République n'est pas élu par le peuple entier. Il est élu par une assemblée de notables, 80 000 grands électeurs, des élus locaux, des barons, des parlementaires. Et finalement, pour de Gaulle, il sépare d'un côté l'échelon politique, le dialogue avec les parlementaires, les élus locaux, et de l'autre, l'aspect plébiscitaire, universel,
le peuple,
exactement. Oui. Et cette pratique du référendum, pour revenir quelques instants en arrière, mais elle touche aussi cette question territoriale avec le référendum 69, oui. De Gaulle la voit pour avoir cet accès au peuple. Et à partir de 62, le président étant élu par le peuple, la pratique du référendum est un double objet, puisqu'il y a déjà cette élection du président de la République qui est une forme de référendum sur son programme, sur ses mesures, etc.
Alors toujours sur le recours direct au peuple, vous évoquez, Pierre Mananti, le suffrage universel. Il faut le rappeler, il faut rappeler son histoire. Le suffrage universel, finalement, a été relativement peu pratiqué dans notre vie politique. Il a été pratiqué au début de la Révolution, puis en 1848, puis sous le Second Empire. Il faut le rappeler quand même. Et puis voilà, à partir de 1962. Comment vous expliquez, Arnaud Tessier, que ce suffrage universel, qui est quand même une grande conquête populaire, aujourd'hui est délaissé par ce fameux peuple auquel Charles de Gaulle souhaitait s'adresser en direct?
Parce que je crois que le peuple fait peur. Le peuple fait peur aux politiques.
C'est une constante de notre histoire politique.
Mais c'est compréhensible, parce que c'est ce que le propos d'Yves Mény que je citais dans Imparfaite démocratie, c'est la contradiction profonde de la démocratie, mais qu'on trouve déjà chez Montesquieu. La liberté est son revers, l'égalité est son revers, l'égalité extrême, la liberté extrême. C'est-à-dire que le peuple, c'est une force. Derrière le peuple, il peut y avoir la foule.
La violence.
Et donc, toute la difficulté de la démocratie, c'est pour ça qu'elle est fragile par essence, comme je le disais tout à l'heure, et comme de Gaulle le pensait profondément, tout le problème de la démocratie, c'est d'arriver à dominer cette contradiction. Alors, l'élection du président de la République au suffrage universel, maintenant, il est de bon ton de la critiquer en disant qu'il faudrait revenir, que si on veut vraiment rehausser le Parlement, il faut redonner plus de poids à d'autres formes d'expression de la démocratie, que c'est l'illibéralisme qui défigure, etc. Je ne crois pas, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments d'équilibre dans une constitution. Simplement, il faut que ces équilibres soient respectés, il faut jouer sur tous les leviers.
En l'occurrence, sur quel levier peut-on jouer ?
Éventuellement, quand même, là, moi, je reste partisan de l'usage mesuré, mais fort, du référendum sur des sujets de société majeurs, qui permettent ensuite de gouverner, d'avancer en disant « les Français ont dit cela et on applique clairement la volonté des Français », et qui permet de renouveler quand même la confiance dans le président de la République de manière adéquate lorsqu'il veut engager de grandes réformes. Et il y a aussi d'autres ressorts. Je trouve par exemple que le parlementarisme rationalisé, la capacité quelquefois, l'article 49.3 sont des choses qui sont nécessaires dans bien des circonstances. Il y a des leviers. C'est ce que de Gaulle disait quand il a quitté le pouvoir. Il est parti en Irlande, comme vous le savez, pour commencer d'ailleurs l'écriture des Mémoires d'Espoir. Et il a reçu la visite du secrétaire général de l'Élysée, son fidèle collaborateur Bernard Tricot. Et il dit à Tricot, écoutez, les institutions ne sont peut-être pas parfaites, mais au moins, j'ai laissé à mes successeurs un certain nombre d'outils, et il cite certains de ceux que je viens de citer. On peut gouverner si on le veut. Je ne dis pas que les institutions sont parfaites, mais si on le veut, on peut gouverner. Et je crois que plutôt que de condamner la Ve République, il faut essayer de réfléchir sur les outils qu'elle a mis à la disposition du politique et sur la façon d'en user. Et puis, il y a peut-être des choses à changer dans la Ve République.
Oui, il faut quand même souligner la plasticité de cette vieille charpente, et les successeurs de Charles de Gaulle, y compris ceux qu'il avait vilipendés, s'y sont coulés avec bonheur.
Oui, jusqu'à la cohabitation. Oui, c'est vrai que François Mitterrand avait été un adversaire féroce de la Ve République, et il avait en quelque sorte... Mais il y a un élément qui est souligné dans notre ouvrage collectif, et que je crois très important. Un des équilibres de la Ve République, c'est aussi l'articulation entre un pouvoir fort, un exécutif fort, et une administration qui est forte et respectée. Et je crois que cette articulation entre l'administration et le politique, qui forme ce que de Gaulle appelait l'État, parce que pour lui l'État c'était les deux articulés, administration loyale mais non assujettie au pouvoir, et un exécutif fort et obéit, mais qui respecte l'administration, cet équilibre a été perdu depuis un certain nombre d'années.
Alors, sur ce point précis, Pierre Malanti, vous qui êtes un praticien du pouvoir aujourd'hui, on a beaucoup dit que les politiques avaient de moins en moins de pouvoir et que c'était l'État profond, l'administration qui avait le pouvoir. En tout cas, c'est ce que souvent les parlementaires ont dit et c'est ce que beaucoup de ministres dépités ont dit. Comment vous vivez ça au jour le jour, le pouvoir de l'administration? On se souvient que le président de la République, Emmanuel Macron, avait voulu passer en revue tous les directeurs généraux d'administration au début de son mandat pour justement vérifier leur loyauté. Où est-ce qu'on en est de tout ça aujourd'hui?
Oui, c'est ce que les Américains appellent le spoil system. Aux États-Unis, quand on change de présidence, les grands directeurs d'administration tombent, sont remplacés.
Et c'est naturel.
Et c'est assez naturel. Mmh. Et en fait, ce sont des hauts fonctionnaires, mais qui sont nommés pour une période, celle du mandat présidentiel américain, donc des mandats de 4 ans, et ce qui assure une loyauté de l'administration auprès de l'État. Je crois qu'en France, on a une culture politique profondément différente d'aux États-Unis, où justement, ce spoil system a créé une très forte politisation de l'administration avec des directeurs d'administration américains qui ont des avis tranchés sur certains sujets. Au contraire, on a la chance
c'est
et la richesse en France d'avoir une administration qui laisse beaucoup de place à la décision politique, qui offre aux politiques
vraiment
le choix entre différentes options, je le pense sincèrement.
Les grands chefs de l'administration ne disent pas « c'est pas possible, on a déjà essayé, on va pas y arriver ». Non.
Ils peuvent dire, on a déjà essayé, ça va être difficile d'y arriver, mais ils sont là pour proposer des alternatives, et c'est vraiment le politique qui choisit. Et l'un des rôles du métier de politique, hein, c'était Manès qui disait, gouverner, c'est choisir. C'est encore quelque chose de profondément vrai. Le ministre est là pour choisir entre différentes options qui lui sont proposées par l'administration. Ce qui n'empêche pas d'expliquer que telle option a déjà été étudiée, évoquée, n'a pas fonctionné, de mettre en garde contre différents dévoiements, possibilités d'échec de telle ou telle option, mais je crois que ça, c'est un peu un mythe à casser. Il n'y a pas d'État profond, comme beaucoup nous en accusent. Et au contraire, le politique a encore un vrai rôle dans le système français.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette conversation absolument passionnante sur l'histoire et l'évolution de la Ve République. En un mot, s'il y avait une réforme à faire aujourd'hui pour maintenir, disons, cette vieille charpente de la Ve République, Pierre Mananti, laquelle proposeriez-vous?
C'est pas facile. C'est vrai qu'on a évoqué plusieurs fois la question du référendum et du rôle du référendum comme consultation sur des sujets de fond. Moi, je partage l'avis d'Arnaud Tessier et je m'excuse si je lui pique, du coup, l'idée qu'il allait peut-être suggérer, mais c'est quelque chose... Aujourd'hui, le référendum est trop considéré comme une élection partielle, un risque politique, et finalement, d'ailleurs, est vu comme non plus une question posée au peuple, mais une manière de donner son avis, de relégitimer ou non le président au cours d'un mandat. Et on a perdu l'idée de base qui était de consulter le peuple. Et le président de la République, quand il y a eu cette crise des Gilets jaunes, a utilisé un grand débat national à créer des instances, une mécanique ad hoc, parce qu'il ne pouvait plus s'appuyer sur ce référendum. Donc peut-être que une des belles propositions de la Ve République à laquelle il faudrait redonner vie, c'est cette idée du référendum comme consultation sur des sujets techniques et sociétaux.
Alors, on vous a bien entendu, hormis le référendum, Arnaud Tessier, vous avez déjà plaidé en sa faveur, s'il y a une réforme à faire?
Peut-être, alors ça je suis un peu Alain Supiot, qui est un des professeurs, grand professeur de droit social et qui est un des contributeurs de l'ouvrage. Alors, c'est pas une critique contre le Conseil constitutionnel, hein, pas de assimilation.
Oui.
Mais c'est vrai que le Conseil constitutionnel est une juridiction qui est devenue très puissante, qui a pris un rôle très différent. D'abord par la réforme de 1974, qui a élargi le mode de saisine. Et ensuite parce que le Conseil constitutionnel a pris de lui-même une importance très importante dans la définition de l'état de droit.
C'est le juge ultime.
Ce qui n'était pas au début de la Ve République, où il avait été surtout conçu pour limiter les empiétements du législatif sur l'exécutif par De Gaulle.
Donc là, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire?
Oui, sur le mode de désignation qui reste très politique, je crois quand même que...
Trop
alors pour le coup, à l'américaine, à partir du moment où on a une vraie Cour suprême, et il faudrait peut-être modifier le mode de désignation qui est dans la main du politique, il faut bien le dire, des membres du Conseil constitutionnel.
Très bien, bah écoutez, ça sera votre dernier mot. Un grand merci à vous pour la qualité de cet échange. Je rappelle les titres de vos livres. Arnaud Tessier, vous avez co-dirigé avec l'ancien ministre Hervé Guémard un livre de fond, mais absolument passionnant, intitulé « Demain, la Ve République, point d'interrogation ». C'est publié chez Perrin. C'est en librairie en date du 7 février. C'est
17
février. 17 février. 17 février 2022. Et puis Pierre Mananti, bah vous êtes en librairie avec cette histoire du gaullisme social, avec une préface aussi de l'ancien ministre Hervé Guémard, qui est un peu le gardien de la... puisque Hervé Guémard préside la Fondation Charles de Gaulle, c'est bien ça? Et donc c'est chez Perrin. Notre thème aujourd'hui, c'était donc la Ve République va-t-elle tenir bon, et on vous écoutant, on reste plutôt optimiste. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que celles qui l'ont précédée, ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et puis vous pouvez évidemment nous écouter en balado-diffusion, en podcast, à partir de vos plateformes de podcast préférées. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.